Chapitre 17 La dernière journée. Quand je m'éveillai, jeudi 2 octobre, dans la chambre propre et confortable où j'avais dormi toute la nuit, j'entendis la fanfare des coqs, le caquettement satisfait des poules, et m'approchant de la fenêtre, je contemplai la vallée profonde avec ses châtaigniers par cette belle matinée ensoleillée. Il était encore très tôt, le chant du coq, les rayons obliques du soleil levant, les ombres allongées, tout m'engageait à sortir pour explorer le pays. Saint-Germain-de-Calberte est une grande paroisse de 9 lieues de circonférence. À l'époque des guerres de religion, juste avant la dévastation, elle abritait 275 familles, dont 9 seulement étaient catholiques. Il fallut au curé 17 journées de cheval pour aller de maison en maison faire le recensement. Mais le village même, bien qu'il soit un chef-lieu de canton, est à peine plus grand qu'un hameau. Il s'étage en terrasse sur une pente escarpée, parmi les châtaigniers majestueux. La chapelle protestante est un peu plus bas sur une petite éminence. Au milieu du village se trouve une vieille église catholique très curieuse. C'est de là que le pauvre Ducheila, le martyr catholique, avait sa bibliothèque et tenait ses réunions de missionnaires. C'est là qu'il avait fait construire son tombeau, pensant reposer au milieu d'une population reconnaissante qui l'aurait sauvé de l'erreur. Et c'est là qu'on apporta le lendemain de sa mort, pour l'enterrer, son corps percé de 52 blessures. Vêtu de ses habits sacerdotaux, il fut exposé en grande pompe dans l'église. Le curé, choisissant un texte du second livre de Samuel, chapitre 20, verset 12, « Et Amasias, baignait dans son sang sur le grand chemin, fit un sermon émouvant, exhortant ses frères à mourir à leur poste comme leur malheureux et illustre chef. » Au milieu de ces flots d'éloquence, le bruit courut qu'Esprit Séguier approchait. Et, tenez, toute l'assistance prit ses jambes à son cou, détalant aux quatre coins de l'horizon. Le curé lui-même s'enfuit jusqu'à Alès. C'est une étrange position que celle de cette petite métropole catholique, sorte de Rome en miniature, au milieu de ce pays sauvage et hostile. D'un côté, la légion de Salomon la dominait dans la direction de Cassanias. De l'autre, elle était coupée de tout secours possible par la légion de Roland, à Mialet. Le curé de Louvre-le-Nil, bien qu'il eût été pris de panique à l'enterrement de l'archiprêtre et eût décampé précipitamment vers Alès, resta fidèle à son poste, fulminant du haut de sa chair solitaire contre les crimes des protestants. Salomon assiégea le village pendant une heure et demie, mais il fut repoussé. Dans l'obscurité, on pouvait entendre les hommes de la milice montant la garde devant la porte du curé qui chantait des psaumes protestants et causait amicalement avec les insurgés. Le matin venu, bien qu'ils n'eussent pas tiré un coup de fusil, il ne restait plus dans leur poire à poudre de quoi envoyer une seule décharge. Où la poudre s'était-elle envolée? Chez les camisards, à qui on l'avait donnée comme compensation. Pour un prêtre isolé, des gardiens de cet acabit n'étaient pas de tout repos. L'imagination se figure difficilement que Saint-Germain-de-Calberte ait ainsi été le théâtre de tels bouleversements. Tout est maintenant paisible et les pulsations de la vie humaine sont faibles et ralenties dans ce village des montagnes. Les gamins m'escortaient à distance respectueuse comme des chasseurs de lions craintifs. Les gens se retournaient pour me regarder une seconde fois ou sortaient de leur maison pour me voir passer. On eût dit que mon arrivée était le premier événement important survenu depuis le temps des camisards. Leur attention n'avait rien de désobligeant ni d'insolent. Ils me contemplaient simplement avec plaisir, avec une pointe de surprise, comme eussent pu faire des bœufs ou encore un tout jeune enfant. Et pourtant, j'en fus vite fatigué et je me hâtai de quitter la rue. Je me réfugiai sur les terrasses qui sont couvertes d'un tapis de gazon et j'essayais vainement de rendre avec un crayon le port majestueux des châtaigniers soutenant leur dôme de verdure. Par moments, un vent léger s'élevait, et les châtaignes tombaient tout autour de moi sur l'herbe, avec un son faible et sourd. C'était comme le bruit menu que ferait une chute de grêlons, mais mon âme y mêlait un sentiment de douce sympathie à l'idée de la récolte qui s'amassait pour la plus grande joie des fermiers. En levant les yeux, je voyais les châtaignes, sombres, apparaître au milieu des coques épineuses qui s'entrebâillaient déjà. Et entre les branches, mon regard embrassait tout un amphithéâtre de montagnes ensoleillées, couvertes de feuillage. Jamais site ne m'avait procuré une jouissance plus profonde. Je me mouvais dans une atmosphère délicieuse, je me sentais léger, rasséréné, comblé, mais peut-être n'était-ce pas de l'endroit seul que venait la disposition de mon esprit. Peut-être, dans une autre contrée, quelqu'un pensait-il à moi? Ou peut-être une de mes pensées avait-elle visité mon inconscient, puis s'était évanouie, aussi discrète que bienfaisante? Car il y a des pensées, et ce sont sûrement les plus belles de toutes, qui s'effacent sans nous laisser le temps de saisir nettement leurs traits, comme si quelque dieu parcourant les vertes routes de notre âme ne faisait qu'entr'ouvrir la porte de la maison, donnait un regard souriant au foyer, puis repartait, pour toujours. Était-ce Apollon, Mercure, ou l'amour avec ses ailes repliées? Qui peut le dire? Mais nous poursuivons notre chemin l'esprit plus léger, et nous sentons la paix et la joie dans nos cœurs. Je dînais avec deux catholiques. Ils tombèrent d'accord pour condamner un jeune homme catholique qui, ayant épousé une protestante, avait adopté la religion de sa femme. Ils pouvaient comprendre et respecter un protestant de naissance. À vrai dire, il semblait être de l'avis d'une vieille femme catholique qui m'avait dit ce même jour qu'il n'y avait pas de différence entre les deux sectes, si ce n'est que pour les catholiques le péché est plus grave puisqu'ils ont plus de lumière pour les guider. En tout cas, il parlait de cette désertion avec un profond mépris. « Un homme a toujours tort de changer, » dit l'un d'eux. C'était peut-être l'effet du hasard, mais vous voyez que cette phrase me poursuivait. Pour ma part, je crois qu'elle est l'expression de la philosophie courante dans le pays. J'ai peine à en concevoir une meilleure. Changer de foi, et pour son salut éternel abandonner sa famille, c'est déjà chez un homme une preuve singulière de défiance envers les traditions. Ajoutons qu'il y a beaucoup de chance, que dis-je, il y a grand espoir, qu'en dépit de cette conversion radicale devant les hommes, il ne soit pas changé devant Dieu de l'épaisseur d'un cheveu. Honneur à ceux qui ont cette audace, car la rupture est douloureuse. Mais qu'il s'agisse d'un prophète ou d'un simple d'esprit, que ce soit signe de force ou signe de faiblesse, il me semble que c'est l'indice de vue un peu étroite que d'attacher une telle importance à des nuances après tout infinitésimales, ou de pouvoir rompre avec de chères affections pour un gain de l'esprit aussi problématique. Quant à moi, je crois que j'aurais de la peine à abandonner mes antiques croyances pour ne trouver au total dans une autre foi que d'autres mots. Mieux vaut voir les choses largement et comprendre la religion de ses pères en esprit et en vérité afin de reconnaître que ce qui est mauvais est aussi mauvais pour moi que pour les meilleurs adeptes des autres confessions. Le phylloxéra dévastait le pays et au lieu de vin, nous bûmes à déjeuner un jus de la vigne bien plus économique, la parisienne, comme on l'appelait. On le fabrique en mettant les grappes entières dans un tonneau avec de l'eau. Un à un, les grains fermentent et éclatent. Ce qu'on boit le jour est remplacé par une quantité d'eau égale, ainsi, avec de nouvelles cruches remplies au puits, de nouveaux raisins redonnent de la saveur. Un tonneau de parisienne peut suffire à toute une famille jusqu'au printemps. Comme le lecteur peut l'imaginer, c'était un breuvage peu alcoolisé, mais il était d'un goût agréable. Le temps de déjeuner, de boire mon café, il était plus de 3 heures quand je quittais Saint-Germain-de-Calberte. Je descendis le long du Gardon de Mialet, large lit de torrent sans eau, et je traversais Saint-Étienne de Vallée Française ou Val Francesque, comme on a coutume de l'appeler. Vers le soir, je commençais à gravir la montagne de Saint-Pierre. Ce fut une ascension longue et pénible. Derrière moi, une voiture vide qui revenait de Saint-Jean-du-Gard me suivit de près et me rattrapa vers le sommet. Le conducteur était convaincu, comme tout le monde, que j'étais marchand ambulant, mais ce qui le distinguait des autres, c'est qu'il savait très bien ce que je vendais. Il avait remarqué la laine bleue qui pendait aux deux extrémités de mon paquet, et il en avait conclu avec une grande assurance que je faisais commerce de ces colliers de laine bleue qui ornent l'encolure des chevaux de trait en France. J'avais pressé Modestine autant que ses forces le lui permettaient, car je désirais ardemment jouir de la vue sur l'autre versant avant la tombée du jour. Mais il faisait nuit quand j'atteignis le sommet. La lune claire montait dans le ciel. Quelques bandes gris-rosées, dernière lueur du crépuscule, s'attardaient seules au couchant. Une vallée béante, envahie par les ténèbres, s'étendait à mes pieds comme un gouffre ouvert dans la nature. Mais le profil des montagnes se détachait nettement sur le ciel. Il y avait là le mont Aigual, la citadelle de Castanet. Et Castanet mérite une mention spéciale parmi les Camisards. Ce n'est pas seulement parce qu'il était un chef actif et entreprenant. Il y a des roses parmi ses lauriers. En effet, il montra comment l'amour arrive à ses fins même au milieu de scènes aussi tragiques. Au plus fort de la guerre, il épousa dans sa forteresse des montagnes une jeune et jolie fille nommée Mariette. Il y eut de grandes réjouissances et le marié relâcha 25 prisonniers en l'honneur de cet heureux événement. 7 mois plus tard, Mariette, la princesse des Cévennes, comme l'appelaient par dérision les catholiques, tomba entre les mains des autorités et l'on pouvait craindre qu'elle n'en vît de dur. Mais Castanet était un homme d'action et il aimait sa femme. Il se jeta sur Valrang et y prit une dame en otage. Alors, pour la première et la dernière fois de toute la guerre, il y eut échange de prisonniers. Il existe encore des descendants de leur fille, fruits de quelques nuits étoilées sur le mont Aigual. Modestine et moi, ce fut notre dernier repas de compagnie, prîmes un casse-croûte au sommet du Saint-Pierre. J'étais assis sur un tas de cailloux, elle se tenait près de moi dans le clair de lune, et comme une personne bien élevée recevait le pain de mes mains. Manger ainsi doublait le plaisir de la pauvre bête, car elle avait une sorte d'affection pour moi, et pourtant j'allais bientôt trahir sa confiance. La descente sur Saint-Jean-du-Gard était bien longue, et nous ne rencontrâmes qu'un charretier, visible de loin au reflet de la lune sur sa lanterne éteinte. Avant 10 heures, nous étions arrivés et installés à souper. Nous avions parcouru 15 milles et gravi une montagne escarpée en un peu plus de 6 heures.